Donc, bonsoir à tous et bonsoir à toutes. Merci d'être présents un samedi soir à un horaire déjà assez avancé. Donc, nous allons terminer la journée par une table ronde consacrée à un sujet qui paraît relativement impressionnant formulé tel qu'il l'est sur le programme, qui est la question de la possibilité d'un contrat social, d'une forme nouvelle de contrat social entre la planète et l'humanité. Et donc table ronde qui fera peut-être la transition avec l'intervention de Michel Serres demain, dont vous savez qu'il est l'auteur d'un ouvrage assez fameux sur le contrat naturel. Donc peut-être que ce que nous allons discuter ce soir sera une manière de commencer une discussion qui se poursuivra sans doute dès demain. Alors, pour discuter de ce sujet, j'ai un panel tout à fait adapté et de choix, à commencer par, Andreas Eschbach, qui est donc un auteur allemand, qui va donc nous apporter un regard que j'espère un petit peu décalé, un regard germanique, et peut-être que les spécificités allemandes en matière de contrat pourront nous éclairer. Donc vous verrez que chaque auteur a aussi un angle qui peut concerner les aspects écologiques. Donc un ouvrage qui me paraît important dans la bibliographie d'Andreas Eschbach, c'est celui qui s'appelle « En panne sèche », qui nous décrit effectivement ce que pourrait être un monde qui s'achemine vers la fin du pétrole. Et pour le coup, vous avez une très belle mise en scène de ce à quoi pourrait aboutir ce type de raréfaction d'une ressource qui est devenue centrale dans notre société actuelle. À côté de lui, nous avons Thomas Day, donc l'auteur de nombreux romans, l'auteur de nombreuses nouvelles, avec notamment un recueil qui est dans l'actualité, qui est « 7 secondes pour devenir un aigle », recueil dont j'ai eu la chance d'avoir en quelque sorte la primeur pour des raisons un petit peu particulières. Et donc vous verrez, si vous lisez ce recueil, ce à quoi je vous invite, qu'il est très fortement orienté aussi vers les aspects écologiques et donc vers des formes de relations entre nous, l'humanité, et la planète. Et puis tout de suite à côté de moi, j'ai Jeanne Adéba, donc l'auteur également de toute une littérature impressionnante.
De Batz. Désolé, mais ça m'agace à chaque fois.
Voilà, et disant tout le temps Jeanne, c'est plus simple et ça évite effectivement les... C'est-à-dire, j'ai le même type de problème sur mon nom, donc il n'y a pas de souci. Donc, alors je vais attaquer plus simplement en disant qu'elle est l'auteur de nombreuses nouvelles, romans, Plaggers, Métaphysique du vampire. Et puis, un recueil de nouvelles qui pourra peut-être percuter par son titre, qui est Stratégie du réenchantement. Et visiblement, d'après ce dont on a discuté, le contrat ne fait pas partie de ces stratégies de réenchantement.
Alors, absolument pas.
Voilà. Et on verra pourquoi. Alors, je vais commencer en étant un petit peu décalé et en éclairant un petit peu les coulisses de la préparation de cette table ronde. Puisqu'en fait, nous avons essayé de préparer cette table ronde par un échange de courriels. Et puis, ce qui s'est dégagé assez rapidement, c'est que nous étions tous relativement critiques par rapport à la formulation du sujet. Et à commencer par moi, et j'avais un certain nombre de réserves philosophiques et politiques par rapport au sujet. Et donc, tonalité critique. Et en fait, on avait davantage envie tel que le sujet était posé, de le déconstruire, ce sujet, d'en déconstruire les termes, plutôt que de partir sur une discussion qui respecterait ces termes. Alors, je vais en profiter. Je vais faire de même. Et je vais demander à chacune des personnes pourquoi, effectivement, ce sujet, tel qu'il était formulé, posait problème, et dans quelle mesure sa réception, effectivement, suscitait plutôt la critique plutôt que l'adhésion d'emblée. Donc, j'ai commencé par ma voisine, qui a été la première à tirer sur ce sujet.
En ce qui me concerne, un contrat, ça se passe avec une personne vivante, morale, avec laquelle je peux avoir un dialogue, et j'estime que ce n'est pas le cas de la planète. Tout simplement, pour des tas de raisons pragmatiques. J'estime également que c'est la porte ouverte à toutes les bondieuseries. Et en tant qu'athée profonde, je ne peux pas souscrire à ce genre de choses. Je peux souscrire à une gestion pragmatique des ressources, absolument, dans le sens où on va aller vers le plus égalitaire, le plus respectueux, à la fois de l'esthétique, parce que c'est très important l'esthétique, et les forêts vertes à la place des banlieues grises, c'est quand même plus joli. Mais je refuse absolument de considérer comme conscience quelque chose qui est du roc avec des végétaux dessus. Je suis vraiment désolée. J'ai un côté terriblement espéciste. Je parle avec ce qui me parle. Je communique avec ce qui communique avec moi et la planète ne communique pas avec moi. C'est une erreur terrible que de me vivre, parce que je l'ai vu écrire souvent, comme un auteur écologiste. Je ne suis pas un auteur écologiste. Je suis un auteur qui constate que la façon dont nous gérons les ressources actuelles de la Terre nous mène droit, nous, l'espèce humaine, au désastre. Et ça, ça me consterne.
Mais on pourrait te dire que, certes, la planète ne parle pas, mais elle a des porte-paroles, des gens qui parlent pour elle.
Oui, mais je ne parle pas aux ayatollahs, personnellement. Et en général, les gens qui parlent pour la planète sont très souvent des ayatollahs.
D'accord. Thomas ?
Je trouve la formulation assez intéressante parce que elle fait une dichotomie entre ce qu'on vit, le monde, la planète sur laquelle on vit et la littérature. On peut considérer dans la vraie vie que la planète, en effet, c'est une boule de roche, de magma, et puis il y a de la végétation dessus, des villes, des gens, et puis l'atmosphère, et ainsi de suite. On peut aussi considérer en littérature que c'est ça, ou c'est une conscience, ou c'est la théorie Gaïa, les Japonais voient un dieu en chaque chose, un dieu dans chaque objet, un dieu dans une table, un kami, un esprit. Moi, je trouve qu'en tant qu'écrivain, quelque part, les deux hypothèses me vont. C'est-à-dire, je peux considérer que c'est juste un caillou, et quelque part, on en fait ce qu'on en veut, ou si on la casse, ben, tant pis pour nous, et c'est bien fait pour notre gueule. Mais aussi, je peux considérer, ben, tiens, c'est quelque chose de conscient, de connecté. Et qu'est-ce qui se passe si c'est connecté avec nous? Si on l'abîme, est-ce que ça répond? Est-ce qu'on va se prendre plus de roi gant dans la tête? Est-ce qu'on va... Ça devient une espèce d'anti-métaphore, c'est-à-dire que je suis convaincu au fond de moi que la planète n'est pas un organisme vivant, n'est pas Gaïa et n'est pas connectée avec toutes les choses. Mais d'un point de vue littéraire, ça peut être une anti-métaphore. Je peux utiliser cette idée que la planète est un truc spirituel, connecté avec tout le monde, qu'on est en train de le bousiller et qui va répondre en nous balançant des ouragans, des tremblements de terre, etc. Et d'un point de vue littéraire... Je peux utiliser cette hypothèse pour parler de Katrina, pour parler du tsunami, et tout en faisant le pari de l'intelligence du lecteur qui sait que, oui, c'est pas un être conscient, mais ce dont il me parle, c'est des catastrophes, c'est de ce qu'on a fait, c'est de ce qu'on a déréglé. Et je trouve que, voilà, d'un point de vue littéraire, les deux choses sont intéressantes.
Alors, je voudrais répondre à Gilles. J'ai écrit un roman qui prend en compte la théorie Gaïa, donc, où la Terre est vivante et consciente. Mais malgré tout, pour moi, le véritable écrivain qui a parlé de la planète en tant qu'être vivant, c'est Stanislas Lem avec Solaris. Et à partir de là, la communication avec elle n'est pas possible dans Stanislas Lem. Elle envoie des images qui ne sont pas décryptable par les gens qui essayent de l'étudier. Et je pense que si, à la limite, on pouvait envisager une planète consciente, elle ne pourrait pas nous parler. Et c'est à ton tour, Andreas, de t'exprimer. Parce que toi aussi, tu étais d'accord pour penser que le contrat n'était pas forcément une métaphore valide.
Oui. Moi, j'ai plusieurs fois essayé de négocier avec des moustiques. Pendant la nuit, je lui ai dit, tu peux prendre mon sang, mais laisse-moi dormir.
Fais pas de bruit. C'est ça, fais pas de bruit. Surtout.
Fais pas de bruit. Prends. Pas dans, autour de ma tête. Je vais laisser maman dehors la couverture. Non, ils insistent de faire bruit. Bon, à mon avis, ça ne marche pas de négocier avec un moustique, ça ne marche pas de négocier avec un grizzly ou un volcan. Il ne marche pas de mettre des limites de vitesse à tempête. La question, créer l'illusion que nous sommes au même niveau que la nature, mais ce n'est pas le cas. Nous sommes soumis à la nature, mais on va en discuter en plus, je pense.
Alors, du coup, si effectivement le contrat n'est pas forcément la formule la plus adaptée pour vous pour traiter des relations de la planète avec la nature, comment vous, est-ce qu'à travers vos œuvres, vous traitez cette question des relations entre l'humanité et puis ce qui fait son environnement ?
En revanche, d'un point de vue fictionnel, je rejoins tout à fait Thomas. Ça peut être quelque chose avec lequel on dialogue métaphoriquement. Effectivement, c'est ce que j'ai fait dans Playgirls, c'est ce que apparemment tu as fait dans cette seconde pour devenir un aigle.
Non, moi je suis parti sur l'idée que ça pouvait être une interprétation, mais personnellement je tranche pas en tant qu'auteur. Je laisse le lecteur choisir si c'est une bonne théorie ou pas. Je montre juste des humains face à l'inexplicable ou face à la catastrophe. Moi, ce qui m'intéresse, c'est dans ma nouvelle qui s'appelle Éthologie du tigre, qui parle de disparition des tigres en Asie du Sud-Est, il y a des chercheurs japonais qui font des courbes sur le nombre de catastrophes et le nombre de morts qu'elles font chaque année. Et donc, cette courbe augmente parallèle à, disons, l'industrialisation. Et ils font, en même temps que ce nombre de catastrophes, de morts, ils font la courbe de l'évolution de la population mondiale. Et donc, ils s'aperçoivent que plus la population augmente, et bien plus la courbe des catastrophes augmente. Et donc, ça, c'est l'impact de l'homme. Et comme ils sont japonais, ils appellent ça la barrière Gaïa. C'est-à-dire qu'il y a un moment où les deux courbes se croisent et les catastrophes font plus de dégâts qu'il y a de naissances. Mais ça, c'est le point de vue de mes scientifiques japonais. C'est pas mon point de vue. Moi, je montre des hommes qui essayent de comprendre pourquoi il y a plus de catastrophes qu'avant, pourquoi ces catastrophes-là sont plus puissantes qu'avant, ce dont on n'est même pas sûr. Enfin, il y a eu des épisodes très violents dans l'histoire de la planète, etc. Moi, ce qui m'intéresse, c'est le ressenti de mes personnages vis-à-vis de la disparition des tigres, le fait qu'on coupe des forêts pour faire de l'huile de palme, etc. Et en fait, ce qui est peut-être le plus dur pour moi dans ça, c'est le sentiment d'impuissance totale du citoyen face à tout ça, où on a beau voter et remplacer nos ampoules, sincèrement, rien ne change, tout est aussi massacré qu'avant. Et c'est surtout ça qui me... Enfin, c'est le cœur de mon livre, je pense, c'est cette impunité vis-à-vis de la destruction des espaces naturels, des espèces naturelles, et de se dire qu'on peut avoir la meilleure volonté du monde, à part peut-être, je sais pas, faire du terrorisme, je vois pas trop ce qu'on peut faire pour changer ça. Et c'est... moi, j'ai des enfants, donc comme je suis père, et ben je me dis, ben voilà, le monde que je laisse à mes enfants, il est quand même assez moche, il va être de plus en plus moche, et je peux m'agiter autant que je veux, écrire autant d'histoires que je veux, voter écolo autant que je veux, remplacer toutes les ampoules que je veux, mettre un pot catalytique sur ma voiture, quelque part, rien ne s'améliore, en tout cas, c'est l'impression que j'ai.
Andreas, comment envisageais-tu la relation entre la planète et l'humanité à travers tes romans ?
En protégeant la nature, nous, en vérité, nous protégeons nous-mêmes, parce que nous sommes dépendants de la nature, de la planète, et on ne peut pas faire n'importe quoi. Si on déborde, on dépasse des limites, la nature va contre-attaquer.
Oui, mais là, tu la personnifies. Elle va juste être le résultat de ce qu'on aura fait.
Oui, c'est une métaphore, bien sûr, mais plus exactement, ce sont des procès qui sont mettre aux limites et qui vont changer le résultat et les résultats qui ne nous allons plaire.
En fait, je me rends compte, en écoutant parler Andreas, que ce qui me gêne profondément dans la métaphore de la contre-attaque, du contrat, de la personne, c'est qu'on va dire que l'autre en face va réagir, nous balancer des cyclones, au-delà de cette limite, votre cyclone n'est plus valable, qu'on va payer parce que ce qui va nous être renvoyé, c'est, je ne sais pas, quelle catastrophe... la merveilleuse île d'ordures qui se trouve au milieu de l'Atlantique ou du Pacifique, je ne sais plus, qui va tuer tous les poissons qu'on pourrait manger. Et en fait, ça nous déresponsabilise du résultat de la catastrophe, alors qu'on est profondément responsable. On est responsable de cet îlot d'ordures, on est responsable du fait que les énergies non renouvelables que nous utilisons change la température de la planète. C'est nous qui nous tuons, c'est pas la planète qui contre-attaque, c'est nous qui nous assassinons, c'est nous qui nous étranglons nous-mêmes dans nos propres ordures. C'est pour ça que le contrat avec cette personne morale qui n'existe pas m'agace.
Enfin, c'est malgré tout une hypothèse qui est défendue par le promoteur de l'hypothèse Gaïa lui-même. Enfin, si on reprend effectivement les derniers écrits du monsieur qui s'appelle James Lovelock, qui est le créateur, l'inventeur de cette hypothèse Gaïa, enfin, c'est à lui qu'on doit cette théorie. Lui, effectivement, a titré un de ses derniers ouvrages, La Revanche de Gaïa, et considère que toutes les manifestations que nous allons commencer à subir sont le résultat des comportements humains qui ont été accumulés au fil des années. Donc,
je suis désolée, je suis athée, je ne peux pas croire une seconde à une histoire pareille.
Oui, mais James Lovelock, son raisonnement n'est pas un raisonnement spiritualiste ou animiste. Enfin, alors certes, on peut déboucher sur effectivement cette interprétation, mais lui considère qu'effectivement, il y a un ensemble de mécanismes terrestres qui aboutissent à une forme de régulation d'ensemble, et que si cette régulation d'ensemble est perturbée, effectivement, ça induit un certain nombre d'effets négatifs que nous subissons pour le coup. Sans avoir besoin de passer forcément par une hypothèse qui donnerait à la Terre une espèce d'âme.
Personnellement, je trouve qu'il y a, dans cette histoire d'écologie et d'espace naturel, de nature à protéger, il y a un vrai contrat. Mais il n'est pas avec la planète. Moi, je pense qu'il est avec mes enfants. Personnellement, je pense qu'il y a un vrai contrat avec mes enfants. Et je pense malheureusement que...
Ou ce qu'on appelle les générations futures.
La génération d'avant, mes parents, ils avaient un vrai contrat avec moi qu'ils n'ont pas tenu du tout. J'ai un père qui est ce qu'il est, mais quand il voit, il a été forestier toute sa vie, donc il a travaillé dans les forêts toute sa vie, il adore les arbres, etc. Et dès qu'il voit un écolo, il veut sa mort, ou presque. Donc c'est le genre de mec qui a un 4x4 et qui met fuck écologie sur l'arrière de son 4x4. Et donc le contrat de la génération. Enfin, là on paye, ce qu'on paye, c'est depuis Jack l'Éventreur, c'est depuis 1888 et compagnie. Hein. On paye pas, c'est pas hier que ça a commencé à déconner. Donc c'est l'industrialisation, la mécanisation, l'automatisation, et tout ça est allé trop vite, et on a pollué, on a brûlé beaucoup, beaucoup trop d'hydrocarbures. Et ça, c'est pas nouveau. Alors, voilà, le contrat, l'un ou l'autre, il est vis-à-vis de nos enfants. Et qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui, là, maintenant, tout de suite, pour qu'ils vivent mieux et, si possible, sans avoir à brûler des tonnes de pétrole et ainsi de suite. Et moi, c'est le seul contrat que je vois.
Là, je rejoins totalement Gilles. Effectivement, c'est envers l'humanité qu'on a un contrat à tenir. Qu'est-ce que tu en penses, Andrea ?
Je voudrais qu'on laisse tomber cette métaphore du contrat. Absolument, parce que j'ai l'impression que ça va être sentimental sans fin. Parce que oui, le contrat avec les enfants ou la nature, des choses comme ça. Le contrat, ça demande deux partenaires au même niveau qui ont de pouvoir, qui ont des buts qui peuvent communiquer et tout ça. Oui, bien sûr, on pourrait dire un contrat avec l'avenir, avec les enfants. Oui, mais l'avenir n'est pas là pour dire non, je veux autre chose que vous pensez. Ça ne marche pas. Je voudrais vraiment qu'on laisse tomber cette métaphore à poubelle et on dit on a des on voit des problèmes qui sont en train d'arriver. Et comment sont des solutions? Moi, je ne suis pas le spécialiste pour des solutions, mais je vois beaucoup de problèmes qui sont en train d'arriver.
Les écrivains de science-fiction ne sont jamais les spécialistes des solutions. Ils sont toujours les spécialistes des problèmes. Ça, il faut le savoir.
Oui, on est là. On n'est pas là pour... je l'ai dit hier. On est là. On n'est pas là pour prévoir la voiture. On est là pour prévoir les embouteillages. Voilà. Et c'est pas de moi. Hein. Attention, je ne me souviens plus de qui c'est. Mais c'est un illustre, genre Asimov... Silver Beck, un Américain. Mais d'accord, tu n'es pas d'accord pour la métaphore du contrat. Faisons une expérience de pensée d'écrivain de SF. Comment est-ce qu'on pourrait métaphoriser ça? Puisque les générations futures de Thomas ne te vont pas, qu'est-ce que tu...
On pourrait réfléchir sur la responsabilité ou sur des choses comme ça. Mais pas un contrat, c'est quelque chose totalement.
Alors justement, en brillant, si le sujet a été posé de cette manière, j'imagine que la question c'était qu'effectivement les relations entre l'espèce humaine et la planète sont problématiques. Mais comment est-ce qu'on pourrait faire pour matérialiser, concrétiser des formes d'engagement entre les collectifs humains et l'environnement qui les entoure? Donc tu parlais de responsabilité, mais quel véhicule ça pourrait prendre cette responsabilité?
Non, nous sommes en train de rendre toute la planète dans une sorte d'environnement artificiel. On influence beaucoup beaucoup pourcentages de la planète et ça va s'augmenter, bien sûr. Il ne reste que des petites enclaves où la nature peut faire n'importe quoi. Et on est en train d'utiliser tout. Et alors avec ça, notre responsabilité pour un fonctionnement de cet écosystème, ça augmente aussi.
Thomas,
je pense que la généralisation ne marche pas. Par exemple, en France, il n'y a jamais eu autant de forêts depuis 100 ans. La surface de forêt augmente chaque année et c'est pas récent, ça fait une centaine d'années qu'on est parti sur ce rythme là et il y a des pays au monde qui font beaucoup beaucoup d'efforts. Je pense pas qu'on est en train d'artificialiser toute la planète, c'est pas vrai. Par contre, ce qui moi me quelque part, c'est pas que ça me désespère, mais ça m'attriste. On est passé sur des échelles de réflexion où on plantait des arbres en France pour les récolter au bout de 100 ans ou pour les couper au bout de 100 ans. Maintenant, les décisions qu'on prend sur les espaces naturels, sur l'écologie, l'environnement, etc., sont des décisions qui sont réfléchies sur l'espace des prochaines élections présidentielles ou les prochaines élections européennes où on réfléchit sur 5 ans, 3 ans, on va créer une taxe machin, mais bon, les gens vont râler, alors on va perdre les prochaines élections, etc., etc. En fait, on réfléchit sur des durées de plus en plus courtes et c'est le malheur de notre civilisation, c'est que on est dans une civilisation où on va trop vite, on réfléchit trop vite, on veut les trucs trop vite et je pense que sur l'écologie, la pollution, etc., il faut qu'on recommence de nouveau à réfléchir sur 20 ans, 30 ans, 50 ans, 100 ans.
Voire plus, puisque on a même des déchets qui peuvent être des déchets nucléaires dont la durée de vie s'étale sur des milliers d'années.
Et je pense que Thomas a totalement raison sur l'effet produit. En revanche, là où je suis pas sûre de le rejoindre, c'est sur le paysage de forêt actuel en France. Il faut quand même reconnaître qu'en Europe, il n'y a plus de paysage naturel depuis des siècles. Nous avons un paysage apprivoisé. Ce que nous envisageons comme étant la nature, lorsque vous sortez des villes, ça n'est pas la nature. C'est un paysage que nous avons créé depuis qu'il y a une France, une Europe, etc. C'est ce que disait Andreas tout à l'heure. Les rares endroits de la planète qui sont réellement semblables à ce qu'ils étaient il y a des milliers d'années sont réduits à des mouchoirs de poche de plus en plus, notamment en Amazonie, la forêt primaire est en train de disparaître.
Ça suffit.
Si ce n'est pas déjà fait.
Ça suffit de voler sur... par exemple sur Canada, et c'est tout, des champs pour quelque chose qui sont à cultiver.
Voilà, alors autant qu'on se réjouisse qu'à nouveau on plante des arbres, c'est tout à fait logique, et il faut qu'on continue. Pas n'importe quels arbres, hein, parce que les forêts de pins dans les Landes, ça n'est pas naturel. Et les maladies qui arrivent dans les Landes, ça n'est toujours pas naturel. C'est des choses qui se sont importées du fait que nous avons planté des pins dans les Landes.
Mais planter des arbres, ce sont des essais de prendre la responsabilité pour cette pièce de la nature. On essaie de gérer la nature dans cet endroit, dans un parc ou une forêt artificielle. Tout ça. Ce sont tous des essais De prendre la responsabilité pour la nature dans nos mains et de gérer cet environnement nous-mêmes.
Mais en revanche, là où Thomas a complètement raison, c'est que comme la gestion est à court terme, ça donne n'importe quoi.
Oui, mais c'est moderne. Les gens qui ont géré des forêts, ils pensent dans des générations. Les vieilles familles qui possèdent des forêts depuis des centaines en Allemagne, ils pensent, moi je plante cet arbre et l'enfant de mon enfant va le couper. C'est un autre horizon temporel.
C'est un autre horizon temporel, mais que tu vas retrouver dans les langues. On a même fait des romans là-dessus, figure-toi. François Mauriac. Alors, du coup, là, parce que je suis très fatiguée, je ne me rappelle plus du titre, Thomas. La dame qui assassine le monsieur à cause des pains. Ça te dit rien, Thérèse d'Esquerou, peut-être. Merci, Georges. Thérèse d'Esquerou. Donc là, on est dans la construction de forêts. Ça devient la richesse d'une famille. C'est la fin du 19e siècle, le début du 20e. C'est une pure merveille. On est dans ce que tu décris, là. Ou pas ? Le type de gestion de forêt que tu décris, Andreas, est-ce que c'est la même chose que ce qui s'est passé dans les Landes, où les richesses, les fortunes landaises se faisaient sur les forêts de pins, qui se plantaient d'année en année, etc. Non ?
Oui, c'est... Oui, c'est... Je comprends pas qu'est-ce que ça...
J'ai peut-être pas été super claire.
Oui, non.
C'est bien possible.
C'est pas grave. On va rebondir.
Je l'admets. Je l'assume totalement.
Nous allons enchaîner avec une autre question importante, qui est celle des leviers pour effectivement faire bouger le système et retrouver des relations apaisées entre l'espèce humaine et son environnement.
Tu retombes dans la métaphore, je t'ai vu là.
Oui, mais volontairement, tout à fait. Thomas... Dans une de ces nouvelles, qui est celle où l'Indien Johnny a un mode d'action assez radical qui consiste à éliminer le dirigeant d'une société pétrolière, propose effectivement une modalité pour faire bouger le système. Est-ce que ça te paraît...
Ouais, mais c'est pas la bonne, en fait.
Je croyais que tu prenais pas de décision.
Non, mais j'en prends pas. C'est-à-dire, moi, je montre un personnage, en effet, qui s'appelle Johnny, qui est un Indien Oglala, un Indien Sioux, qui a vu ses terres... prise par les compagnies pétrolières, les compagnies d'uranium aux États-Unis, ce qui est une réalité historique. Il y a eu des incidents au Oglala, il y a eu des tas de problèmes dans les années 70 avec les Sioux. Et ce personnage devient un terroriste écologique radical, mais lui-même est convaincu du côté inadapté de sa radicalité. Il sait qu'il va faire un clou d'éclat, il sait qu'on va en parler. Il sait que ça va marquer les esprits, mais il sait que ça ne changera absolument rien. Ça change juste quelque chose pour lui. Et son sacrifice change quelque chose pour lui. Mais le terrorisme, c'est jamais la bonne voie. Ça peut pas être ça. Enfin, mais je comprends, et c'est là où c'est plus pervers. C'est-à-dire que je comprends les gens qui ont discuté, qui ont milité, qui ont voté, qui se sont battus pour certains projets, qui sont battus contre certains projets, qui voient que, quoi qu'il arrive, rien ne se passe. Je comprends qu'ils aient envie d'arriver à la violence. J'arrive à les comprendre. Je suis pas d'accord, je le ferai pas, mais je comprends qu'on puisse en arriver là quand tout ce que vous avez utilisé comme arme légale, toute la discussion et tout, est resté sans rien. Parce que les groupes pétroliers, il faut voir ce que ça pèse. Et faut voir... En France, on a un groupe Total... qui a fait des tas de miracles en Birmanie. Intéressez-vous à ça, Total en Birmanie, c'est une histoire d'amour extraordinaire. Et il y a Shell aux États-Unis, en Alaska et tout. Enfin voilà, les groupes pétroliers, il faut voir ce que ça représente en termes de millions de dollars, et il faut voir ce que ça représente contre, comparé à Greenpeace ou d'autres. C'est Greenpeace, c'est rien. Bon, ben, je comprends qu'il y ait des gens, il y a un moment, ils n'en peuvent plus et ils tombent dans la violence. Je suis pas d'accord, mais je comprends.
Et ça veut dire que sur l'éco-terrorisme, tu te demandes jusqu'où on a le droit d'aller quand on a raison ?
Non, je me demande pas ça. Je me dis que c'est juste, c'est pas possible, quoi. Mais je comprends qu'il y ait des gens qui soient tentés par ça parce qu'ils sont, quelque part, tellement déçus, tellement désespérés, tellement en colère. En fait, dans la nouvelle qui s'appelle « 5 secondes pour devenir un aigle », où il y a ce Johnny, son surnom, c'est Johnny Colère. Et ça vient d'une chanson. Et voilà, et lui, il a tellement de colère en lui qu'il pèse 2 tonnes. C'est une métaphore réifiée. Il est tellement lourd de colère que quand il monte dans sa voiture, elle s'abaisse de 10 centimètres.
Tu devrais expliquer métaphore réifiée, mon ami.
Non, j'explique pas métaphore réifiée. Mais, mais voilà, je comprends les gens qui ont de la colère parce que c'est un sentiment humain qui est facile à comprendre.
Là où je... Qu'est-ce qu'il a dit ?
De telle manière, enfin, je reprends le propos qui a été donné.
Quand tu as tellement de colère, ça aboutit au meurtre, au suicide ou à un massacre, ça aboutit toujours à un truc pas bon. Mais je comprends que les gens arrivent à des niveaux de colère tels que c'est le point de non-retour. Mais moi, je juge pas, juste je montre ça, je montre le point de vue de son fils. Et c'est pareil, je juge pas le point de vue de son fils, qui est un branleur de 16 ans, indien, qui sent qu'il n'aura jamais de boulot dans une réserve indienne. Juste, je monte ces gens-là et j'essaye de me dire, voilà, c'est possible d'arriver à ce point-là de colère et c'est possible de faire 2 tonnes parce qu'on est tellement de colère qu'on devient lourd.
C'est très rigolo, tu sais que ça fait énormément écho à la vieille anglaise et le continent, Thomas. Voilà. La novella par laquelle j'ai commencé à écrire. Tu parles de faire 2 tonnes, je parle d'une baleine. Tu parles de gens qui, par colère, se révoltent et font de l'écoterrorisme, c'est le fond de ma nouvelle. Et ça m'amuse énormément de nous retrouver sur ce terrain, je t'avoue.
Andreas,
je ne donne pas plus de réponses que Thomas.
On va voir si Andreas en propose. Puisque si j'ai bien compris l'esprit de Handpansech, il y a en quelque sorte l'idée qu'il faut se préparer et trouver les moyens de s'acheminer vers une transition. Ai-je bien saisi l'esprit du roman ?
Oui, en Pansèche, c'était l'essai de dessiner un scénario. Qu'est-ce qui se va passer après la fin du pétrole ou après le pic, qui est le point le plus important pour ça. Et j'écris ce livre parce que je n'ai pas arrivé à trouver cette sorte de scénario. Autre part, j'étais intéressé personnellement, c'est-à-dire. En écrivant ces romans, j'ai bien sûr réfléchi sur la signification de ce que je faisais. Et j'ai trouvé le point le plus important, c'est la vitesse du changement. Si ça arrive d'une semaine à l'autre, comme dans le roman, c'est la catastrophe. Si ça arrive lentement, et si on se prépare, si on cherche pour des autres chemins de gérer notre environnement, notre civilisation. C'est l'idée fondamentale. Nous sommes dépendants d'une civilisation technique et cette civilisation technique, c'est dépendant d'énergie. C'est comme ça. Bon, et il faut trouver autre source d'énergie, une autre sorte de technique. Et si c'est une catastrophe ou pas, ça dépend de la vitesse du changement. Et il faut comprendre pourquoi il faut gérer notre environnement. C'est à cause de notre nombre. Nous sommes 7 milliards. On est en train de devenir 8, 9, 10, peut-être plus milliards. Et la planète est finie. Il est grand, la planète est grande, mais peut-être après un certain point, pas assez grande.
T'inquiète pas, on trouvera un moyen de nous manger nous-mêmes. On le fait déjà.
Je voudrais rebondir sur cette vitesse de changement de la société. Moi, je ressens exactement l'inverse de ça. C'est-à-dire, je pense toujours à la grenouille. Vous mettez une grenouille dans une casserole d'eau et vous mettez la casserole d'eau sur le feu. La grenouille, elle va être dans l'eau chaude, elle va être tranquille, puis elle va être dans l'eau de plus en plus chaude, elle va être un peu engourdie, et puis elle va finir par cuire. Vous prenez une grenouille, vous la jetez dans une casserole d'eau bouillante, elle saute de la casserole et elle dégage tout de suite.
Non, elle est morte.
Pas sûr, mais bon, c'est possible, une chance sur deux.
Voilà.
Je pense qu'actuellement, ce qu'on vit, c'est qu'on est la grenouille dans l'eau chaude. Et donc on est en train de cuire doucement, tranquillement, ça s'appelle le réchauffement climatique. Et puis à un moment, on va commencer à étouffer parce qu'il va faire trop chaud ou parce que l'eau potable va coûter 10,50 € le litre et que vous allez vraiment avoir du mal à acheter de l'eau potable. Et puis, mais quand on va arriver à ça, et ben l'état d'après, c'est qu'on est mort. C'est pas qu'on a réagi, c'est qu'il fallait réagir avant que l'eau...
Oui, c'est vrai. Cet exemple, je connais bien sûr aussi. Mais la différence, c'est si on se rend compte de quoi s'il se passe ou pas. Le grenouille qui est chauffé lentement, elle ne comprend pas qu'est-ce qui...
Je suis d'accord, mais ça fait 30 ans, 40 ans maintenant qu'on parle d'écologie, etc., de problèmes de ressources, d'eau potable, de malaria. Ouais. Donc on ne peut pas dire les gens ne sont pas au courant, ils sont au courant, ça y est. Et moi j'ai l'impression que, à part changer les ampoules, pas grand chose se passe, je suis désolé. Ok, on a changé les ampoules.
Thomas, tu oublies une chose, on est au sommet de la chaîne alimentaire. Les gens qui souffrent de ce que tu dis, de la pénurie d'eau, c'est pas nous. Ceux qui souffrent de la pénurie d'industrialisation, c'est pas nous.
Non, mais je l'oublie
et
pas.
Ça va continuer.
Je l'oublie pas. Moi, je suis passé beaucoup de temps en Afrique, j'ai passé beaucoup de temps en Asie du Sud-Est.
Et je sais bien.
J'ai creusé des puits au Cambodge, donc je connais vraiment le truc. C'est juste, comme d'habitude, les pauvres vont mourir en premier, les riches vont trouver des solutions pour vivre plus longtemps, quitte à aller vivre en orbite. Et puis, voilà, mais...
Non, ils iront pas vivre en orbite depuis longtemps. Parce qu'ils lisent pas de science-fiction. T'as oublié ça.
Ils iront vivre en orbite parce que des gens leur proposeront d'aller vivre en orbite dans des super stations très très belles avec des édens, des jardins artificiels, etc. Et qu'ils auront l'argent pour y aller. C'est tout. Alors, ce sera peut-être dans 50 ans. Mais regardez, votre terre est toute polluée, vous avez tout cassé et tout. Mais là-haut, il y a un truc qui s'appelle Eden 1. C'est une super entreprise. C'est
la Grange. La Grange 1.
Ouais, la Grange 1, si tu veux. Et puis... Ça coûte 25 millions de dollars. Mais vous pouvez, 25 millions de dollars, c'est rien pour vos enfants, pour vous. Vous allez vivre là-haut. Et puis en haut, il y aura tous les gens qui meurent et qui n'ont pas d'eau potable, etc. etc. Et ces problèmes-là d'environnement et tout, ils sont connus depuis très longtemps. Les changements, moi, j'en vois très peu.
Si ce type d'idée pouvait faire des bons films plutôt qu'Elysium...
Je n'ai pas vu Elysium.
Mais tu as un bon film. Comment il s'appelle ce film avec Monsieur Nespresso, là où il doit détruire un jardin?
Silent Running.
Silent Running, mais c'est pas avec Nespresso. Ouais.
C'est pas avec Nespresso?
Non.
Il me semble qu'il doit détruire un jardin aussi, lui.
Dans Silent Running, il préserve un jardin, il tue les gens de la station.
Et c'est pas Clooney?
Non, c'est Bruce Dern.
Il est encore un peu jeune à l'époque.
Écoute, je dois le trouver vachement plus sexy que Clooney. Ça doit être ça.
Bien, il nous reste à peu près un quart d'heure. J'imagine que les gens qui sont là ont trouvé une accroche par rapport au sujet, même s'il était posé dans des termes pas forcément très, très séduisants. Donc je vais demander au public s'il a des questions, des envies de poser, de demander des approfondissements par rapport aux thèmes qui ont été évoqués, ou même s'il y a des solutions qui sont présentes chez vous. Quelqu'un en tient l'envie de... Anouk?
Alors, même si je partage la position de Jeanne, j'adore quand la métaphore est filée, et y compris dans le cadre de ce contrat social. Mais je pensais surtout, en vous écoutant, à Zodiac de Stephenson, qui... met en avant des avocats ou des ambassadeurs de ce qui pourrait être un environnement plus favorable à l'être humain ou une planète protégée.
Tu veux dire qu'on doit envoyer des avocats américains négocier le truc auprès
dans Zodiac, c'est des chimistes sur des Zodiacs,
oui.
qui utilisent aussi les moyens d'information pour pouvoir renverser des situations de pollution et des solutions qui...
Oui, sur des modes d'action relativement radicaux.
Ils sont terribles, hein, dans Zodiac, voilà, si je me souviens.
Donc, qu'est-ce que vous pensez de ce type de solutions-là qui ne sont pas de l'écoterrorisme, mais qui donnent une voix à la planète ou à l'environnement?
Un des malheurs du 21e siècle, c'est que il y avait un élan dans les années... alors, qui était poussé par la guerre froide, hein, mais il y avait un élan vers l'espace, la NASA, etc., qui était très important et qui a créé... et à la fois une génération de gens qui ont rêvé de ça, une génération d'écrivains qui ont rêvé de ça, un cinéma qui a rêvé de ça. Et on nous a promis pendant 40 ans les étoiles, et beaucoup y ont cru. Et certains y sont allés, en tout cas ils sont allés sur la Lune ou à la station orbitale. Depuis, je ne sais pas, la fin de la guerre froide ou disons depuis la mission Apollo 13, ce rêve-là, il n'est plus promis. On est juste à 100 km au-dessus du sol. Enfin, c'est rien, quoi. On est à 100 km au-dessus du sol. Waouh, c'est formidable. Il y a des gens qui vont aller sur Mars, mais en fait, ils y vont pour y mourir et construire la première colonie. On ne sait pas trop ce qu'ils vont faire. Et ça va coûter très cher et on ne sait pas ce qui va être possible de faire. Le 21e siècle, c'est un siècle qui ne met pas en avant ses inventeurs, qui ne met pas en avant ses scientifiques, qui ne met pas en avant les pionniers de l'espace. Moi, je suis après la génération... après la génération de Buzz Aldrin et compagnie, donc j'ai pas connu tout ça, mais ces gens-là, quand j'avais 10 ans, je savais qui ils étaient, je connaissais leur nom, j'étais capable de reconnaître leur visage, j'avais vu l'étoffe des héros, j'avais eu le bouquin, ça m'a fait rêver. Et quand j'ai lu la science-fiction à 12-13 ans, l'espace, ça me faisait rêver. Aujourd'hui, et je le vois avec mes enfants, et je le vois avec ce que j'écris, et donc avec mon... L'espace, j'irai pas. C'est pas juste... J'irai pas, c'est une certitude. J'irai pas, vous irez pas pour la plupart d'entre vous, et quelque part, seuls nos robots iront. Et donc ce rêve-là, c'est juste, revenez sur Terre, parce que le seul truc qu'on a aujourd'hui, c'est la Terre, on n'a pas l'espace. Il n'y a pas de base sur la Lune, il y a juste 3 personnes à 100 km au-dessus de la Terre. Donc c'est un peu ça le malheur de ce siècle, c'est que le seul rêve qu'on a, qu'on pourrait avoir, c'est la Terre, rendre l'environnement meilleur que ce qu'il est aujourd'hui, alors qu'il se dégrade et qu'il se dérègle, parce qu'en fait, la vérité, c'est pas que la nature contre-attaque, la vérité, c'est que la planète se dérègle. C'est ça, la vérité. Et ce dérèglement, il est peut-être irréversible, on sait pas du tout, quoi. Donc voilà, quand est-ce qu'on repart vers l'espace? Quand est-ce qu'on redonne de l'horizon aux gens? On leur dit, eh ben voilà, il va y avoir une colonie sur Mars, on va construire tel truc, on va faire tel truc. C'est fou, mais c'est fou, hein, que ce soit des entreprises privées aujourd'hui qui soient les seules à réfléchir à des projets de ce genre-là. Où sont les gouvernements? Ils dépensent 1 000 milliards de dollars pour faire la guerre en Afghanistan. Il faut 20 milliards de dollars pour envoyer quelqu'un sur Mars. 20 milliards, 1 000 milliards. 1 000 milliards pour tuer Ben Laden, 20 milliards pour donner de l'espoir aux gens, montrer que la frontière, il y en a une nouvelle, etc. Moi, ce monde-là, je le trouve dingue.
Ça sera une des rares fois où je serai totalement d'accord avec Thomas Day.
D'autres questions? Ou des formes de commentaires, remarques? Oui.
Oui, bonsoir. À défaut d'un contrat social, est-ce qu'on ne peut pas imaginer que chaque citoyen du monde signe une charte d'engagement qui vise à, par exemple, réduire son empreinte et qu'on publierait les uns vis-à-vis des autres afin que chacun dise, bah oui, un certain nombre de personnes se sont engagées maintenant, donc pourquoi pas moi? Et est-ce que ça ne ferait pas effet boule de neige, finalement?
On peut, mais est-ce que tout homme né sur cette terre est un citoyen?
On peut déjà commencer par les citoyens.
Je pense que le citoyen, en fait, il peut agir à plein de niveaux, etc. Pour moi, le vrai problème aujourd'hui, c'est que l'économie dans laquelle on vit, c'est donc une économie, on peut dire, je suis contre la mondialisation, etc. On vit dans une économie mondialisée. Et je ne sais pas si vous avez été choqué, mais moi, le truc qui m'a le plus choqué ces 20 dernières années, c'est quand on a sauvé les banques. Avec notre argent, on a sauvé les banques. Attendez, réfléchissez au truc. Enfin, je veux dire... Mais qu'elles crèvent, les banques. Pourquoi on a sauvé les banques? Enfin, il fallait peut-être sauver les gens, mais pas sauver les banques. Enfin, il y a un moment... ce système-là, il se crée, il s'est créé, il est très puissant, c'est un rouleau compresseur. Pour arrêter le rouleau compresseur aujourd'hui, parce qu'il produit plein de gens riches, il produit des tas de gens qui ont le pouvoir, et que la cohésion entre les riches et le pouvoir, elle est quand même très très forte, quoi qu'on en dise. Je pense qu'on peut faire tous les trucs de citoyen qu'on veut, ce qu'il faut... C'est arriver à faire comprendre que ces puissances économiques qui sont devenues démesurées, plus puissantes que certains États, il faut qu'on les régule d'une façon ou d'une autre. Et c'est vraiment important qu'on régule ces puissances économiques, qu'on régule la spéculation. Des ordinateurs qui envoient 10 000 ordres de bourse pour dérégler le marché boursier sur les matières premières. Donc ça veut dire sur des gens qui font du travail, qui est de l'agriculture et tout, d'un seul coup le café, eux ils gagnent pas plus, mais le café vaut 4 fois plus dans votre magasin. Ben ça c'est pas normal. Ces trucs-là, déjà on les taxerait. On taxerait les 10 000 ordres à HPAD, je dis n'importe quoi, 1 cent, et bien déjà, ça coûterait 10 000 cents de faire ces petites équations. Donc il faut réguler tout ça. Alors voilà, le libéralisme, l'ultralibéralisme, on n'est plus trop pour la régulation. Ben non, je suis désolé. Il faut vraiment qu'on réfléchisse au niveau planétaire maintenant pour réguler d'énormes rouleaux compresseurs économiques qui sont plus puissants que les États, plus puissants. Quand François Hollande dit « Mon ennemi à moi, c'est la finance », je sais pas si vous avez vu les effets, mais il n'y en a pas eu beaucoup. Hein. L'ennemi, il n'a pas eu peur. Hein. Et je dors très très bien cette nuit.
L'ennemi, c'est Goldman Sachs, et au cas où quelqu'un aurait un doute sur la question.
Mais c'est au-delà de Goldman Sachs, c'est-à-dire l'ennemi, c'est qu'on a accepté ce système et que quand ils ont renfloué les banques, eh ben, on n'a pas foutu le feu à la ville. C'est ça qui s'est passé. C'est nous qui sommes. On n'a pas réagi. Avec votre argent, ils ont sauvé le système bancaire.
Je ne suis pas sûre que ça serait à ce moment-là qu'on aurait dû gueuler. C'est quand les banques sauvées ont commencé à couler les entreprises. Là, c'est devenu hallucinant. les banques qui auraient dû continuer à accorder les crédits, au lieu de ça, avec notre fric, elles ont refusé de continuer les crédits aux entreprises. Elles ont collé des éditeurs, par exemple dans la mouise. Elles ont été redoutables là-dessus. Et c'est vrai que l'ennemi écologique majeur, c'est la finance. Il ne faut pas se leurrer.
Moi, l'ennemi, ce n'est pas la finance. Je dis clairement, la finance, on a besoin pour l'investissement, pour la recherche, le développement. Ce n'est pas la finance. L'ennemi, c'est des spéculations avec des ordinateurs qui vont très vite, des spéculations qui font monter le prix des matières premières pour que des gens gagnent de l'argent alors qu'ils ne travaillent pas à part spéculer. C'est ça, l'ennemi. Le vrai danger, c'est quand on commence à faire de l'argent à partir de rien. Et quand on fait de l'argent à partir de rien, la plupart du temps, ce rien s'effondre. Et on a vu ce qui se passe quand ça s'effondre.
Ça s'appelle une bulle.
Ça s'appelle une bulle, oui.
C'est ce que j'appelle la finance. Mais...
D'autres mains s'étaient levées, je crois, vers le fond. Oui, monsieur.
Bonsoir. Finalement, à la fin de la discussion, ça devient intéressant. Et,
Parce qu'au début, tu t'es emmerdé, c'est ça. Non, mais on part tout de suite.
Je sais pas si j'irai jusque-là. Mais...
Il fallait rater le début, en fait.
Voilà. Mais c'est comme un roman. Tu sais, le premier chapitre, c'est toujours de la merde. Faut le couper.
Bon. Vas-y. Très bien. Est-ce que finalement, avant que l'homme respecte la nature, faudrait pas qu'il se respecte lui-même et qu'on le responsabilise politiquement avant, enfin, qu'il puisse au moins décider par lui-même et pas rester dans l'attentisme?
Je crois que le mot-clé dans ce que tu viens de dire, c'est lui-même. En fait, au départ, l'homme, il ne respecte que lui-même et jamais l'autre homme. Si l'homme respectait un autre homme que lui-même, il respecterait le reste. C'est trop gentil.
Donc pour toi, on est plus au niveau des valeurs personnelles plutôt que dans des...
Lorsqu'on respecte l'autre, on respecte la collectivité. C'est la base. Enfin, moi, je n'en sors pas, mais je me trompe peut-être.
Je voulais juste revenir sur un proverbe qui est aborigène, je crois, et que j'aime beaucoup. C'est le proverbe de la puce et du chien. Et les aborigènes disent la puce qui croit qu'elle possède le chien sur lequel elle vit, elle est folle. C'est exactement ça. On croit qu'on possède la terre, mais non, on ne possède pas la terre. On vit sur la terre. C'est pas pareil que posséder. C'est vraiment très différent.
Autre question ? Y avait-il... Non, personne. Tout le monde est... Oui.
Oui, moi, c'est pas vraiment une question, mais comme on est tous désemparés, effectivement, par rapport à tout ce qui a été débattu, mais au-dessus de votre tête, vous avez donc les projets de Vincent Calbeau. Et comme il était juste avant, je pense que ce qu'il faut, c'est aussi qu'on soit créatif, créateur, co-créateur, et qu'on ait des idées et qu'on n'abandonne pas. Qu'on se projette, nous, à chacun, dans sa petite créativité quotidienne, pour que, moi je suis assez d'accord, qu'on fasse des petites actions, chacun, qu'on ouvre un peu notre conscience. Moi je pense que vous n'avez pas beaucoup parlé de conscience, et moi ça me gêne, mais pourquoi pas, c'est peut-être aussi une voie. Parlons de conscience, et surtout si on n'a pas envie d'être ni spirituel, ni dans certaines voies, ce que je peux comprendre, eh bien qu'on crée, tout simplement qu'on crée, qu'on ait envie de s'en sortir et qu'on visualise vers quoi on voudrait aller plutôt que... Bon, je suis d'accord avec vous, il faut aussi faire l'état des lieux. Mais visualisons peut-être et ayons la foi en la vie.
Mais je vais au-delà de vous, c'est-à-dire que vous dites qu'il faut qu'on crée et tout, c'est formidable, mais il faut qu'il y ait des banques pour investir sur les projets, des projets comme ça, magnifiques et tout. Il faut que ça suive derrière. Il faut qu'on donne de l'espoir aux gens, il faut qu'on leur donne des solutions. Des projets. Non, il ne faut pas qu'on réclame, il faut qu'on se batte. Ce n'est pas pareil que réclamer.
Il y a des projets, il y a les prêts qui vont. Vous voulez investir dans la planète ? Il y a les prêts qui vont. C'est solidaire. En général, c'est écologiste, puisque ça se passe de façon très, très carrée. Vous connaissez ou pas ?
Aujourd'hui, il y a un outil qui s'appelle le crowdfunding.
C'est pareil, oui.
Et on peut s'intéresser à des projets de création... de conquête de l'espace, de je sais pas, d'écologie, de parc, et tous participer via le crowdfunding. Et si on commençait peut-être à mettre tant d'argent plus là-dedans que dans 40 paires de chaussures différentes...
Ah non, ça, je suis peut-être... pas d'accord. Je suis désolée. Je veux continuer à acheter des pompes folles. Mais je veux aussi faire le reste.
Je voudrais
ça, c'était
ajouter...
de la provoque, Thomas, à vous.
Je n'ai qu'une paire de chaussures.
Oui, mais d'accord, mais c'était de la provoque parce que moi, j'en ai 300. Et il le sait.
Je voudrais ajouter que l'argent, c'est aussi une métaphore. L'argent n'existe pas. La vraie richesse, c'est le travail, c'est des gens, c'est sur des idées qu'on a ou on n'a pas. Et l'argent, c'est seulement un essai de mesurer. C'est une mesure qui est débordée déjà et qui font des bêtises. Et sauver les banques, c'est vraiment comme sauver une nuage. Ça ne sert à rien.
Et puis en plus, il faut recommencer la fois d'après. Et elle arrive très vite, en plus.
Sauve les banques, ils recommenceront. On les a sauvés une fois. Bon, pourquoi ils gagnent à tous les coups, nous on perd à tous les coups. C'est quand même génial. Moi j'adore, je vais être banquier en fait.
Eh oui, mais à la place, tu as fait écrivain de SF, ce qui est un très mauvais plan en finance, je trouve.
Mais justement, enfin, pour faire une forme de conclusion, c'est... Puisque la question qui a été pointée, c'est le manque d'un imaginaire alternatif. Donc on pourrait vous dire, messieurs, mesdames, auteurs de science-fiction, qu'est-ce que vous attendez pour produire un imaginaire alternatif ?
Mais il y a déjà un imaginaire alternatif. Moi, là où ça m'ennuie, c'est quand les États perdent la main là-dessus. C'est quand, justement, la finance, les banques, deviennent plus puissantes que les États. Or, les États, c'est pas seulement les politiciens que tout le monde se plaît à vilipender, à trouver tous nuls, tous pourris, etc. Les États, c'est nous. Et nous avons laissé les banques devenir plus puissantes que nous. C'est eux qui doivent prendre en charge, pas seulement la charité chrétienne qui consiste à fonder des associations privées, des ONG, etc. Non, non, ça devrait être les États qui prennent en charge la survie de la planète. Moi, je n'en sors pas. Je suis une républicaine et je reste une républicaine. Lorsqu'on continuera à laisser la main libre aux banques, on ne sera toujours pas en République. Et l'État ne sera pas celui qui prend la décision. C'est-à-dire, nous ne serons pas ceux qui prennent la décision. C'était mon doigt tendu.
Et nous resterons sur cette remarque. Donc, après avoir vertement et fortement critiqué cette notion de contrat, on verra si demain, Michel Serres essaye de à nouveau réemployer cette notion qu'il avait inaugurée il y a quelques années avec son contrat naturel. Je vous remercie tous et toutes. Et... Oui.
Alors, je trouve de la part de Yannick vachement vache de nous coller Michel Serres comme conclusion à ce que nous venons de dire. C'était terrorisant.
C'était aussi une forme de transition pour inciter ceux qui étaient là ce soir à poursuivre les discussions demain. Donc, nous poursuivons demain avec d'autres tables rondes sur l'écologie. Et Michel Serres évoquera peut-être à nouveau cette question de contrat sous sa forme naturelle, en l'occurrence. Bonne soirée.
Everybody's asking where. moi, moi,